Frères et sœurs, je ne sais pas avec quelle attente vous êtes venus dans la maison de Dieu. Vous savez, quand on est chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, une fois un frère a dit un siècle, hein, mais peut-être qu'au fur et à mesure qu'on vient dans l'église avec joie, hein, je ne dis pas qu'on ne vient pas avec joie, par moments, on oublie peut-être qu'on va dans la maison de Dieu, entre guillemets, hein, nous représentons l'église, mais bien sûr, ce lieu accueille l'église, mais on oublie par moments qu'on arrive dans la maison de Dieu et que dans cette maison de Dieu, à n'importe quel moment, il peut se produire des choses. Est-ce que vous croyez qu'il peut se passer des choses ou pas? Oui? Vous savez, je vous transmets les salutations, hein, de chez nous. Et je voudrais commencer par une histoire. Je viens d'une famille italienne, et donc nous sommes 9 enfants, hein, 6 garçons, 3 filles. Et un jour, pour remercier notre maman, c'est une histoire, hein, d'accord? Donc, pour remercier notre mère, 3 des frères vont décider de lui offrir un cadeau. Il y a un de mes frères qui se dit, je veux offrir une belle maison à maman. Elle a toujours voulu une belle grande maison, tout à plat, hein. Voilà, elle va vraiment finir ses jours dans une belle maison agréable et tout ça. Et donc il décide, il trouve une maison. Mon autre frère, lui, il se dit, ma maman a toujours aimé les voitures de course. Et donc il décide de lui prendre une Ferrari, rouge en plus. Et moi, donc pasteur, pas trop riche bien sûr, je me dis, je vais offrir un perroquet à ma mère, un perroquet qui connaît toute la Bible par cœur. Comme ça, quand elle ne sera pas bien, elle demandera et le perroquet va donner les versets. Et donc voilà qu'on va ensemble, hein, et donc on va ensemble. Mon frère offre la photo de la maison. Maman, voilà ce que je vais t'acheter, tout est prêt et tout. Oh, elle prend la maison, elle regarde, elle fait, oh, figlio mio, elle est toute contente. L'autre frère vient, lui, il dit, ma Ferrari. Rouge. Oh, la mère est toute contente, elle est joyeuse et tout. Et moi, j'arrive avec mon perroquet. Je lui dis, voilà, ma, je t'offre un perroquet. Elle me regarde comme ça, avec un beau sourire, sans plus. Et là, qu'on part. Quelques jours après, elle prend le téléphone, elle est sur mon premier. Elle me dit, Daniel, la maison, elle est magnifique, elle est tellement belle. C'est toujours ce que j'ai voulu. Je rêvais de ça. Mais maintenant, je suis vieille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une telle maison? Je ne peux pas l'accepter. Elle téléphone à mon frère, Sergio, la voiture. Mais j'ai même pas de permis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Elle prend le téléphone, elle m'appelle à moi, elle fait, oh Franco, le poulet, il était délicieux. Vous voyez? Et donc, vous voyez, ce matin, au travers de mon témoignage, c'est vrai qu'on est dans la période de l'Avent, hein, on se dirige vers une date que l'on a décidée pour fêter l'anniversaire de la venue de Jésus. On a choisi une date là-bas. Ce n'est pas précis si c'est vraiment ça, mais ce n'est rien. Ce moment-là nous rappelle qu'à un moment, Dieu s'est incarné en chair. Il est venu sur terre, comme on dit, il est venu tabernacler. Il est venu habiter parmi nous. Et on sait que quand Jésus était là, tout a changé, n'est-ce pas? Où Jésus se promenait, il se passait des choses, n'est-ce pas? Quand Jésus part, il va dire, il vous est avantageux que je parte, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, l'Église a démarré. Et aussi ce qui s'est produit, le frère parlait de l'église de Acte 2. Et moi, je pense qu'à Glain, on peut être cette église-là, n'est-ce pas? Parce qu'on a le même Seigneur. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a pas changé. Je vais vous donner mon témoignage. Et dans ce témoignage-là, vous devez entendre ce petit enfant dans cette crèche qui fait des belles choses. C'est un message de Noël, mais dans la transformation d'une vie. Et dans le témoignage que je vais donner de ma vie, vous allez entendre 3 cadeaux que Dieu m'a fait. Qu'il fait à chacun de ses enfants et qu'il veut encore faire à d'autres et peut-être les rendre à ses enfants. Comme je disais, je viens d'une famille de 9 enfants, 6 garçons, 3 filles, une éducation à l'italienne, un papa immigré, sévère, mais on ne va pas s'en plaindre. Et donc on a grandi et bon, malheureusement, mes frères ont fait des bêtises qui ont fait que voilà, sur 6 frères, je pense que les 6 ont fait de la prison. Vous voyez? Et donc, voilà, moi j'ai grandi avec eux et je voyais mes frères qui étaient bagarreurs, qui étaient un peu voyous. Et je ne voulais pas être comme eux. Et donc, vu que c'était des personnes très violentes et que j'avais un peu peur, je me suis inscrit dans les sports de combat, pas pour me battre, pour me défendre. Et Dieu m'avait doué d'un cerveau qui fonctionnait bien. Donc, les études, ça marchait bien pour moi. Je faisais les sciences maths à Saint-Luc à Mont, c'est une grosse école. Et j'avais souvent plus de 90%. Donc, ça fonctionnait bien. Je faisais des sports de combat, et les sports de combat fonctionnaient bien. Pour vous dire qu'avant que tout bascule, j'avais gagné un titre de champion de Belgique de judo, presque à 15 ans. Et donc, il y avait un avenir devant moi qui s'ouvrait. Vous savez, personne à l'âge de 15 ans se dit, à 20 ans, j'irai peut-être en prison, à 25 ans, je serai un voyou, à 27 ans, je serai un clochard. Personne ne planifie une vie comme ça, n'est-ce pas? On a tous une perception de sa vie de se dire qu'adolescent, on va s'amuser, hein, on va vivre sa vie, et après, on va se ranger. Et donc, moi, tout allait bien, tout fonctionnait bien, jusqu'à un moment, un jour, j'ai eu un accident. Je n'avais jamais bu de bière, je ne fumais pas la cigarette, rien du tout. Et un jour, bon, j'ai été confronté à de la jupilaire, vous connaissez, hein. Je ne vais pas demander de lever sa main. Et j'ai bu une jupilaire, et quand j'ai bu la jupilaire, je me suis senti saisi de quelque chose, je ne sais pas. J'ai pris la moto de mon ami pour faire court. J'ai eu un accident un peu plus loin, j'ai eu 11 fractures. Et les 11 fractures ont fait que j'étais plâtré tout le corps et tout. Et quand j'ai voulu reprendre le judo, le karaté à niveau élevé, ça n'a plus été possible en fait. Les jambes avaient été fracturées, les os étaient sortis avec des plaques, des vis. Et donc bref. Et donc ça m'a peiné profondément cela. Et pour vous dire quoi, qu'un jour, en pensant me remettre en route, je suis allé faire un jogging. Et quand j'ai fait le jogging, j'ai rencontré un cousin à moi. Et je ne sais pas vous, mais nous, dans les familles italiennes, on ne peut pas passer sans traverser la route ou un champ pour aller embrasser le frère, la sœur, la cousine, la tante, la grand-mère, qui vous voulez, vous voyez. Et donc, je suis allé sur lui. Et quand je suis allé sur lui, je me suis rendu compte qu'il fumait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, il m'a dit, tu veux goûter? Je dis, non, ça va, merci. Allez, goûte. Non, ça va, merci. Bah, allez, goûte. Je dis, non, goûte, un peu mal. Et pour finir, je ne sais pas pourquoi exactement. Ce n'est pas que j'étais impressionné, ce n'est pas que j'ai eu peur. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai pris le joint. Et j'ai goûté. Comme je vous dis, sans jamais me dire à l'âge de 15 ans que ma vie allait basculer dans une folie. J'ai goûté le joint. C'est vrai que 15-20 minutes après, le hashish, on appelle, le truc dur, 15-20 minutes après, j'ai eu un certain effet. On a rigolé. J'ai vu que le ciel était bleu. Mais c'était l'été. Hein. Donc, le ciel était bleu, la pelouse verte. Vous allez me dire, il ne faut pas fumer pour ça. Hein. Et je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis relevé. Le lendemain, je n'étais pas en manque, en fait. Je n'avais pas besoin de drogue. Et quand je fais marche arrière, je me dis qu'on peut comparer ce que j'ai fait, entre guillemets, même si les valeurs ne sont pas les mêmes, à un enfant de 2 ans qui n'a jamais mangé de chocolat. Vous montrez un bout de chocolat à un enfant, il ne sait pas ce que c'est, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce que c'est. Ça ne l'intéresse pas. Vous mettez un petit bout de chocolat dans la bouche de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il va apprécier, il va manger. Et qu'est-ce que son cerveau va faire? Il va enregistrer, n'est-ce pas? Les sensations agréables du chocolat. Le lendemain matin, quand il va se lever, est-ce que l'enfant va être en manque? Est-ce qu'il va faire chocolat? Non. Mais s'il voit un chocolat sur la table, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le manger, avec le papier même. Vous voyez un peu? Et donc moi, c'est un peu la même chose. Je me suis levé, je n'avais pas besoin de drogue, et j'ai continué ma vie. Quelques mois après, j'ai refait un jogging pour encore essayer. J'ai revu mon cousin, et là, il n'a pas dû m'appeler pour fumer. Je suis allé avec l'intention de profiter de ce moment-là. Et frères et sœurs, je veux attirer votre attention sur quelque chose au début de mon témoignage. Par moment, un choix, un seul choix, bon ou mauvais, peut influencer une bonne partie de notre vie, si pas notre vie entière. Un choix. Accepter Christ, l'exemple, c'est un choix. Et je suis reparti chez moi, et très vite, je vais faire court, parce que 50 minutes, ce ne sera pas assez. Je vais faire court. Très vite, ma vie a changé, très très vite. D'un joint que j'ai fumé tous les 3 mois, j'ai commencé à fumer tous les vendredis. Et de tous les vendredis, j'ai commencé à fumer tous les vendredis et tous les samedis. Et de tous les vendredis et samedis, c'était vendredi, samedi, dimanche. L'école, ça a capoté. Je me suis retrouvé à travailler à l'âge de 15 ans et demi dans un milieu où les hommes buvaient de la bière à 6 heures au matin. Mais oui, le monde comme ça, il fonctionne comme ça. Et donc, très vite, on a commencé à fumer. Donc, tous les week-ends, oh, on taffait. Hein. Le problème, c'est que ça dépend qui. Quand je fumais un pétard, un joint, de la drogue, je me levais, j'étais en pleine forme, j'étais spitant. Dès que j'avais fumé un joint, je devenais apathique un peu, vous savez, un peu mou là. Et ça ne me plaisait pas. Et donc, pour remédier à cela, vu que j'aimais bien le joint, j'ai pris de l'alcool. Hein. Mais du bon, hein. Pas de la jupilaire d'Aldi, non, non, du bon, hein. Chimée bleue, vous savez, le truc de lourd, quoi, vraiment bien lourd. Hein. Et le problème, chez nous, dans ma famille, quand on boit de l'alcool, il y a des câbles qui se touchent, on devient violent. Et moi, je n'étais pas un garçon comme ça. Et donc, vu que j'avais les joints et la bière, il fallait mettre quelque chose pour calmer le moteur. Et donc, j'ai commencé à prendre du Tranxin, des Valium 10, des Rohypnol. Vous connaissez? Il y a des connaisseurs, pasteur, ici. Après, je vais dire, quelqu'un a déjà pris de la coke? Vous allez voir les mains se lever. J'ai eu ça une fois dans une réunion de jeunes, sérieux. Et je dis, qu'est-ce qui a déjà pris de la coke? Et il y a quelques jeunes qui lèvent la main. Et le pasteur était au fond de la salle. Je dis, pasteur, ils sont là. Mais sérieusement. Donc, regardez un peu la vie d'un jeune adolescent avec une voix prometteuse, pour qui tout va bien, avec un B, tu vois. Un jeune adolescent qui ne prévoit pas. Vous voyez que voilà, sa vie va être chaotique comme ça. Et très vite, pour faire court encore, très très vite, du vendredi, samedi, dimanche, c'est devenu lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ça commence à tourner. Et pour vous faire un truc, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 27 ans, je n'ai pas été lucide pendant une heure sur une journée. Je me couchais défoncé, je me levais défoncé. Et je travaillais. J'allais me coucher à 1h, 2h, 3h au matin, et à 5h, j'étais debout pour aller à vélo au boulot. Et la drogue, vous savez que ça coûte très cher, donc sans se rendre compte, les adolescents, on a commencé à vendre la drogue. Et les adolescents, ils pensent que le monde leur appartient, vous savez. Il n'y a pas d'adolescents ici. Moi, je vais me taire. Hein. Je vous le dirai à vous. Hein. L'adolescence, c'est l'âge dangereux. Hein. C'est vraiment un âge très dangereux. Et bref, et donc, on a commencé à vendre la drogue. Et donc, un kilo de hashish. Donc, le hashish, c'est des plaquettes comme ça, à peu près. Hein. On achète ça, hein, gros. Vous êtes attentifs. Hein. Et on vendait plus ou moins un kilo de drogue tous les 10 jours. Ça veut dire qu'on vendait 3 kilos de hashish par mois. Ça veut dire qu'on faisait plus ou moins, un petit million de francs belges, 25 000 euros pour les jeunes de bénéfices par mois. Et donc, des adolescents qui ont une telle somme, on ne peut pas les mettre à la banque, hein, vous pensez bien. Donc, il fallait. Et donc, on s'est amusé comme des fous furieux jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais personnellement, dans mon cœur à moi, je ne parle pas des autres, mais dans mon cœur à moi, il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Quand j'étais avec mes copains dans l'effervescence de la vie, de tout ce qu'on veut, de l'argent, on n'y pensait pas. Mais quand je rentrais chez moi, pas régulièrement, mais plusieurs fois par semaine quand même, dans mon cœur, il y avait quelque chose qui me manquait, je n'étais pas heureux. Et s'il y avait bien une chose qui me faisait peur et qui n'avait pas de sens, c'était la mort. La mort, pour moi, elle n'avait pas de sens. Et cela remontait à mes 9 ans, quand j'ai perdu mon grand-père. J'étais attaché à lui, j'étais fusionnel avec mon papy. Je l'embrassais dans le cou, il m'embrassait dans la nuque, c'est vraiment fort. Et il est décédé. Et quand j'ai dit, mais il est où, papy? Il est mort. Oui, mais il est où, papy? Il est mort. Je dis, ouais, mais il est où, papy? Et ma mère s'est énervée, je dis, il est mort. Et pendant 3 mois, dans mon lit, c'est pas de la blague, je me rappelle, hein, je m'endormais tous les soirs, je prenais les couvertures, je les repliais comme ça, et je mordais dedans parce que j'avais peur que la mort vienne me prendre. C'est fou, hein? Et quand j'avais 20 ans, je me disais que la vie n'avait pas de sens. Pourquoi? Vivre, si tout va bien, 60, 70, 80 ans, et après 80 ans, on tire un peu dessus. Si tout va bien, c'est ça, la vie, qui est faite de beaucoup de travail, de beaucoup de douleurs, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de problèmes. Et ensuite, on vous met dans un trou, et une semaine après, pour la majorité des gens, vous n'existez plus. C'est ça, la vie. Mais dans notre cœur, on sait que c'est pas ça. Dans notre cœur, tout être humain sait que dans son cœur, au plus profond lui-même, il sait que ce n'est pas la fin. Il le sait. François Mitterrand a dit, je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas. Intéressant, n'est-ce pas? C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Dieu a semé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et pour faire encore court, il y avait une dame dans notre région, Georgette. Aujourd'hui, cette dame a 86 ans. Elle avait dans les 55. Cette dame a eu à cœur ces toxicomanes que tout le monde ne regardait pas, dont les gens avaient peur, et dont la gendarmerie venait à 2 camionnettes, c'est pas de la blague, 2 camionnettes, gilets pare-balles, fusils à pompe chargés. Ils venaient armés jusqu'aux dents. Pourquoi? Parce qu'il y avait 7 fous furieux, défoncés comme des coins, armés aussi. Vous voyez un peu. Et cette femme, elle avait une DAF. Vous savez ce que c'est une DAF? Hein, pour les aînés, là, une DAF, c'est une voiture à nous, mon frère. Ça n'existe pas au Québec. Ça tape sur le net, vous dire, ils avaient même ça, les Belges, une DAF. Quand elle arrivait, même de chez elle, à 500 mètres, quand elle la mettait en route, t'entendais la teuf-teuf. On disait, ça y est, la vieille arrive. Pardon, hein. 55 ans, j'en ai 52. On se disait, la vieille arrive. Mais cette femme, elle a débarqué dans notre vie, dans notre milieu, sans aucune crainte, sans aucune peur. Elle n'est pas grande, hein. Si elle fait 1m50, elle a mis ses talons. Oui, elle n'est pas grande. Et elle est venue, et cette femme, je ne sais pas pourquoi, elle m'a regardé, elle m'a donné un traité, je l'ai tourné en dérision, je me suis moqué d'elle, bref. Et un jour, elle nous dit, vous savez, chez nous, on fait une cellule, j'ai vu qu'il y a une réunion de prière chez une sœur, là. C'est comme ça que tout s'est passé. Elle m'a dit, si tu veux, viens là, à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Elle m'a dit, voilà, il y a des gens qui viennent, on chante quelques chants, on parle un peu de la Bible, et je fais, ouais, et il y a de la tarte, des choses, de la tarte, des boissons. Et en hiver, il fait froid, hein, vous savez ça. Hein. Et quand on fume un joint, s'il fait 0 degré dehors, dans votre corps, c'est moins 15. Vous voyez? Et donc, à un moment, j'ai dit, il neigeait, il faisait froid, j'ai dit, les gars, on va aller chez Georgette. On va aller se marrer un peu là-bas. Et voilà qu'on a débarqué, on a débarqué un bon groupe, hein, des cheveux, il faut voir les têtes, ça fait peur. Hein. Et on arrive chez eux, et dans mon cœur, j'ai dit, on rentre, pas avec quoi que ce soit chez elle, on vide ses poches. On met tout sur le terri, les armes, la drogue, on rentre sans rien chez elle. Je ne veux pas de problème à cette femme. Vous voyez un peu? Parce que dans mon cœur, j'avais un respect pour elle. Et on est rentré, et il n'a pas fallu combien? 20 minutes, 30 minutes, 90% se sont enfouis. Par les fenêtres, par le garage. Les gens ont eu peur, vraiment, ils ont eu peur. Et nous autres, on chargé. À un moment, il y avait deux sœurs, là. Ah, les femmes, là, elles sont fortes. Il y avait un monsieur, grand comme monsieur Finet, là-bas. Un costaud comme lui. Je rêvais que d'une chose. Le frapper. Sérieusement. C'est grave, hein, ce que je dis. J'ai changé, hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'est ça que je dis que c'est Noël. Hein, je suis un bon garçon, gentil, un peu malin. Hein. Vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Hein. Et ce monsieur, il était d'une tendresse. Cet homme, s'il m'avait pris, il m'aurait arraché les bras comme un petit poulet. Vous voyez? C'était un bœuf. Carl Lienard. Il avait des poignets comme des briques. Vous voyez? Des poignets. Vraiment un homme fort, un chêne. Et il y a une femme, à un moment, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, mais tu sais, celui qui aura Jésus va vivre le millénium. Et je fais, va vivre quoi? Le millénium. Et je fais, c'est quoi le millénium? Il va vivre 1000 ans avec Jésus sur terre. Et je fais 1000 ans avec Jésus sur terre. Je suis sérieux. Et là, je suis sur le point d'exploser. Elle me cite Jean 3,16, que vous connaissez tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand elle a dit vie éternelle, ça a résonné dans mon cœur parce que j'avais peur de la mort. Mais je ne savais pas vraiment. Et là, je lui ai dit, vous êtes une bande de fous. Et je suis parti. Et cette femme, elle ne m'a pas lâché. Cette Georgette. Elle n'arrêtait pas. Et un jour, il était 23h, un vendredi. C'était le vendredi, donnez-moi, le vendredi 19 mai 1986. J'entends sa teuf qui arrive. Je dis, oh, c'est pas vrai, j'en peux plus. Et je venais prendre du LSD. Le LSD, c'est une drogue synthétique. Avec un gramme de cette drogue, on fait 10 000 petits buvards. Un buvard, je vais vous montrer. Hein. Je n'arrache pas la feuille avec les annonces. Hein. Regardez, je vais le mettre ici. Vous voyez? C'est là? C'est ça. Vous prenez ça, c'est pas plus grand que ça. Hein. Vous prenez ça, vous mettez en bouche, 1h30 ou 2h après, vous rentrez dans un autre monde. C'est pas de la blague. Vous vous payez des hallucinations, vous voyez des choses que l'œil nu ne voit pas. Et maintenant, avec le recul, je me demande si tu ne bascules pas dans un monde spirituel. Sérieusement. Et quand cette femme, elle est venue, elle m'a dit, écoute, Franck, je reviens de la réunion de prière, j'ai prié pour toi, j'ai eu un fardeau sur mon cœur et je n'arrivais pas à me libérer de ça. Fais attention à toi, fais attention à toi. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je ne vais pas vous dire comment je lui ai dit, mais à la fin, je lui ai dit, sorcière, je vais va-t'en, sorcière, tu me jettes des sorts. Vous ne connaissez pas le Borin, fous le camp. Ça, vous connaissez? Fous le camp, je lui ai dit. Et je lui ai claqué sa porte, elle est partie en pleurant. Et le lendemain après-midi, j'ai attrapé un gars qui passait en moto. Je lui ai sauté dessus, je lui ai pris sa moto, je suis parti avec et je me suis fait choper par une voiture et j'ai fait un vol plané de 11,50 m. Ma tête, j'avais pas de casque, hein. Elle a éclaté sur le sol. Là. J'ai ouvert la tête comme ça, on m'a mis 12 agrafes et ma jambe gauche, l'os est sorti complet. Et comme j'ai tapé le sol à ce moment-là, derrière, j'ai entendu, il y avait une ambulance. On m'a pris, on m'a amené à l'hôpital qui était à 1 km de là et c'est Georgette qui vient le dimanche. Et quand elle rentre dans ma chambre, c'est pas de la blague, hein, c'est dommage qu'elle n'est pas là. Il y avait 26 gars à terre, assis, tous mes copains, comme ça, vraiment défoncés tous. Et quand elle est rentrée, mon père était là, ma mère était là et tout cela. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Et je l'ai regardée, je lui ai dit, toi, ton Dieu, il existe. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que j'aurais dû être tué. Et je suis encore ici. Elle m'a dit, tu veux l'accepter comme ton sauveur? Je lui ai dit, ouais. Elle m'a fait faire, comme on dit, la prière de repentance. Et j'ai donné mon cœur à Christ. Je me rappelle, c'était le 21 mai 1986. Elle m'a apporté une Bible. Mais moi, je n'avais jamais lu la Bible, réellement. Sauf quand j'ai fait ma communion à l'âge de 11 ans. J'avais une Bible top. Elle m'a donné une Bible et je dis, mais c'est difficile à comprendre. Je dis, mais je t'ai amené un livre avec. Et alors, pour me moquer d'elle, je dis, est-ce que tu n'as pas amené de la musique par hasard? Elle me dit, si, je t'ai amené une cassette. Et je vais vous dire un truc de bizarre qu'il ne faut pas faire. Mais je l'ai fait. J'ai commencé à lire ma Bible dans les évangiles. Et là, on parle d'un Jésus qui s'intéresse à la vie des gens. d'un Jésus qui a tout bouleversé, d'un Jésus qui guérissait les malades, d'un Jésus qui purifiait les lépreux, d'un Jésus qui ressuscitait les morts. Et dans mon cœur, c'était un terrain fertile. Ces paroles avaient écho, elles prenaient force en moi. Et à un moment, on planifiait peut-être de me couper la jambe, gauche, 20 ans. Et le lundi, on devait décider, tout ça, j'avais une jambe toute noire, gonflée et tout. Et à un moment, c'était le dimanche soir, et tous les dimanches soirs, on venait me faire une piqûre de morphine pour que je dorme. Et à un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me rappelle que je l'ai fait, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment prier. Et j'ai pris la Bible et je l'ai mis sur ma jambe. J'ai dit, mais ta parole, je l'ai mis sur ma jambe, j'ai dit, ta parole, elle me dit que si on te demande, tu peux intervenir. Quand je me suis réveillé le lendemain, frères et sœurs, ma jambe était presque normale. On n'a pas fait d'opération et elle est là. Et ça, ça a eu un impact dans mon cœur. Il n'y avait pas de puissance là-dedans, ce n'est pas ce livre. Hein. Oui, on sait que le texte qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Mais c'est l'acte de foi que j'ai basé sur ce que la parole de Dieu disait. L'acte de foi que je basais sur ce que la parole de Dieu disait. Notre foi n'est pas fondée sur nos émotions. Notre foi n'est pas basée sur ce que l'on voit, mais sur ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ce que la parole dit. La foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez ? Et de là, il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Je savais, dans mon cœur, je savais que je savais. Et de là, je suis sorti avec un plâtre du bout du pied jusqu'à la hanche et je suis allé dehors avec mes cannes. Et j'évangélisais partout. Je prenais une petite Bible, la petite Bible Gédéon, là, en dessous de mon bras, et j'avais la jambe tendue comme ça. J'étais en forme à ce moment-là. Et je partais partout. Et tous ceux qui passaient, les chiens, les chats, les canards, les oies, n'importe qui, je parlais de Jésus. Ce n'est pas de la blague. J'arrêtais des voitures. Je n'exagère pas. Et au bout de 3 mois, j'avais amené 59 personnes chez cette femme. On me disait, mais qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas, viens, on va aller chez la dame. Elle les a amenés au salut. Et beaucoup de mecs ont jeté des plaquettes de drogue dans les toilettes chez elle. Quand on voyait les rats sortir, ils disaient, non, sérieux. Mais c'est sérieux, les gens venaient, ils se dépouillaient chez elle. 59 personnes. Et j'ai commencé à aller à l'église. Et pour aller à l'église, j'ai invité tous mes copains ex-toxicomanes chez moi. Et on était 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30 même par moment, assis devant chez moi. Et donc, ils venaient à 3, 4, 5, 6 voitures de frères. Il fallait des gars solides. Hein. Et quand on débarquait à l'église, imaginez-vous, 20 gars bizarres, 25 gars bizarres. Il y avait certains qui serraient leur sac. Hein. Et la dame, elle nous mettait dans le fond. Elle se mettait au milieu. À côté de qui, à votre avis ? Elle voulait que je prie à haute voix. Prie. Je fais, ah, Georges, tais-toi. Prie. Tais-toi. Alors, elle prenait un bras, elle me pinçait. Tu vas prier. Et vous voyez, c'est une femme qui était vraiment axée là-dessus. Et, encore une fois, je vais revenir et ensuite, je vais sur les 3 cadeaux. Pendant que le pasteur prêchait, le pasteur disait des choses qui avaient écho dans mon cœur. Je vais dire peut-être un truc qui va vous choquer ici, je ne sais pas. Par exemple, à ce moment-là, je fumais encore la cigarette, personnellement. Je fumais encore la cigarette. Et je ne crachais pas sur une petite bière ou deux, vous voyez. Et donc, je savais, quand le pasteur il parlait, le pasteur ne me pointait pas du doigt, il ne m'accusait pas, mais dans mon cœur, je savais qu'il y avait des territoires qui n'appartenaient pas à Dieu. Et je savais qu'à ce moment-là, c'était ces choses-là que Dieu pointait dans ma vie à moi. Vous savez pourquoi ? Vous connaissez Teen Challenge ? Frère, il connaît Teen Challenge, c'est des centres chrétiens, il y a plus de 500 centres chrétiens comme ça sur la terre qui s'occupent des toxicomanes. Ils ont fait des études, ils sont depuis 1960, donc ils ont un poids. Ils ont réalisé que presque 90% des gens qui ne retombent pas dans la drogue, c'est 90% des gens qui ont arrêté la cigarette. Et 85% de ceux qui rechutent sont ceux qui n'ont pas arrêté la cigarette. Est-ce qu'il y a ? Je pourrais vous raconter quelques histoires là-dessus, mais voilà. Et donc, à un moment, vous savez, quand on ne veut pas... Quand Dieu nous parle, en général, notre cœur est touché. Et si à ce moment-là, on ne répond pas à ce que Dieu dit, la prochaine fois, notre cœur, il est moins touché. Et ensuite, il est de plus en plus moins touché. C'est pas un beau français, hein. Pour devenir à la fin insensible à certaines choses qu'au départ, elles nous convainquaient de pécher comme des fous. On pleurait toute la nuit pour ça. Et donc, j'ai pas voulu écouter. Et donc, petit à petit, vous savez, le diable, lui, s'il y a 1% de votre cœur, il en a assez. Hein. Vous savez, les mauvaises herbes, on ne doit pas les semer. Et c'est arrivé à un point où, au bout de quelques mois, je dis, bon, je rejette et je vais aller aux toilettes, j'arrive. Hein. Je n'allais pas aux toilettes. Je sortais vite fait, je courais jusqu'au coin, j'allais au café chercher une chimée bleue. Sérieux, je sais. Et je revenais en courant et en buvant. Et elle était chaude, il y avait des jets et tout. Il y a des connaisseurs, je le vois, tu vois. Et je buvais, mais quand tu bois vite une bière chaude, ainsi après, tu fais des rots, hein. Fais ce que tu veux. Et je dis, oh, je vais faire des rots. je ferai les roues quand ils chanteront. Parce que quand ils chantent, ça sort de la bouche, ils ne chantent pas avec leur nez. Tu vois. Et donc, ça sortait. Et vous savez, quand votre cœur a des compromis à la fin, la Bible elle dit jusqu'à quand clocherez-vous? Si vous voulez pour là, allez pour là. Si vous voulez pour... Vous savez, votre femme, elle ne m'aimerait pas si vous avez une maîtresse ou deux, vous savez. Et vous, vous ne l'aimeriez pas si votre femme aurait un amant ou deux. Hein. Et avec Christ, c'est la même chose. Il a tout donné, il n'a pas calculé, lui. Il a tout donné, vous savez. Et bref, au bout de 5 mois, mon père, il me dit, tu dois trouver un travail, il te faut un emploi, tu dois travailler. Et je dis, oui. Et tout d'un coup, il me trouve un emploi dont le dimanche, on travaille. Et moi, une fois de 5 mois, ce n'était pas si stable que ça. J'avais des compromis dans ma vie qui faisaient que l'esprit n'avait pas forcément toute la place qu'il voulait, tout l'écho qu'il aurait dû avoir. Et encore une fois, pour des choix que je n'ai pas faits hein, et que j'aurais dû faire, je me suis retrouvé à accepter l'emploi parce que mon père me mettait une pression de fou. Il m'insultait, il disait, j'étais fainéant, bon, rien, bref. L'avenir devant moi n'était pas rose, il fallait de l'argent, il fallait s'acheter une maison, se prévenir. Se prépare un futur. Et à un moment, je suis allé voir le frère, le pasteur. Je dis, pasteur, écoutez, je ne serai plus venir au culte parce que. Et le pasteur m'a dit, non, Franck, tu ne dois pas faire ça. Je dis, non, vous inquiétez pas, pasteur. Le Seigneur m'a libéré de la drogue, il m'a libéré de ceci. Je n'ai pas osé dire de l'alcool, mais bon, je l'ai presque dit. C'était un demi-mensonge. Seigneur, tu vois. Et le pasteur, il m'a donné une image, vous savez. Il m'a dit, tu sais, Franck, quand tu as un feu avec plein de gaillettes, tu sais, des gaillettes de charbon, là, des boules de charbon, il dit, tu vois. Quand elles sont toutes ensemble, elles sont bien fumantes, bien rouges. Je dis, oui, pasteur, il me dit. Il dit, si tu en prends une que tu le mets sur le sol, est-ce que tu peux la prendre avec ta main? Je dis, non, ça brûle de trop. Il dit, et 10 minutes après. Et 15 minutes après. Je dis, elle devient grise. Et si on la laisse là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'éteindre. Mais si je la remets au milieu, qu'est-ce qui se passe? Elle va reprendre vie, pasteur. Si tu quittes l'église, c'est ce qui va arriver avec toi. Je fais jamais, jamais. Pour faire un petit rappel. C'est ça que 50 minutes, c'est court, mais je vais le faire. Vous voudrez me réinviter. Pour faire un petit truc arrière. Quand je témoignais aux gens, là, que je disais que Christ sauvait, que Christ transformait, que Christ libérait de la drogue et tout cela, eh bien, en général, ils étaient tous réceptifs, vous savez. Jusqu'au jour où je tombe sur un junkie. Un junkie, la différence entre moi et lui, c'est que lui se piquait avec de la drogue dure. Hein, on va dire de la drogue douce et de la drogue dure. De la drogue, c'est de la drogue. De l'alcool, c'est de l'alcool. C'est le pourcentage qui change. Une bière, c'est 4, 5. Du whisky, c'est voilà, 8 fois plus. Vous voyez, d'accord? Et donc, à un moment, il me dit, oh, arrête, il dit, tu n'as jamais pris d'héros. Qu'est-ce que tu en sais? Tu dis, toi, qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en as jamais pris. Et vu que j'étais assez orgueilleux, j'ai dit, quoi? Tu vas voir, que je dis. Et je vais retourner dans le monde, et je vais me shooter, et je vais te montrer, moi, que Dieu peut libérer un toxicomane qui shoot. C'est chaud, hein? C'est chaud. Et je m'en vais en colère, vraiment en colère. Et je vais me mettre au lit, je ne sais pas si c'est un jour ou deux à peu, je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois une rose, mais une rose, frères et sœurs, magnifique, vraiment une rose bien droite, une tige, je ne sais pas moi, d'un mètre, ou je ne sais pas, en tout cas, elle était vraiment belle, c'était une tige bien grosse, vraiment une grosse tige toute verte, et la rose en haut, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Et quand je la vois, je dis, mais qu'elle est belle. Et je me rends compte qu'elle est plantée dans, comme dans du roc, comme dans du ciment, là, ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et comme je la vois plantée dans du ciment, dans un truc très dur, je n'ai pas le temps de me dire qu'est-ce que c'est, qu'il y a de l'eau. Pardonnez-moi du mot, dégueulasse comme les eaux d'égout, là, qui envahissent comme un mètre cube. Hein. Ce cube, en fait, se remplit d'eau, mais sale, sale, sale. Et quand je vois l'eau sale, je dis, mais la fleur, et j'ai pas le temps de me dire un truc, que l'eau commence à redescendre, à redescendre, à redescendre. Et je me dis, la fleur est morte. Et quand l'eau descend, je vois que la fleur est encore plus belle. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dans mon cœur, je sais, c'est ce que Joël dit, hein, vos jeunes auront des songes, vos vieux, et tout ça. Et je suis allé voir la dame, je dis, j'ai fait un rêve bizarre. Et je dis, elle me dit, on va prier, on va demander au Seigneur. Mais quand tu te mets à table avec elle, c'est minimum 1 heure. Hein. Elle est biblique, hein, c'est Jésus. Hein. Elle a dit, vous ne pouvez pas veiller, c'est 1 heure. Et au bout d'une heure, 1 heure et quart, je ne sais pas, mais une bonne heure en tout cas, elle me dit, tu sais, Franck, la fleur, c'est toi. Je pense que tu vas vivre de grosses épreuves, mais tu en sortiras plus beau. Voilà, je me suis gonflé le torse. Je dis, ouais, je suis un homme spirituel, c'est cool. J'étais fier, sérieux. Quand je suis sorti et je rencontre John, un très bon ami à moi, il me fait « Ah !» Il m'appelle gros, hein, « Ah gros, j'ai fait un rêve de toi !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai rêvé !» Mais c'est même pas un cauchemar. Je dis, tu te piquais. Je dis « Jamais !» Mais t'es fou, jamais. Et moi, j'avais oublié ce que j'avais dit au gars. Je dis « Jamais, t'es malade !» Je me piquerai jamais. 6 semaines après, j'avais quitté l'église, j'avais un job et je gagnais 300 000 francs belges net par mois. 7 500 euros. Vous voyez un peu? Et là, en moins de 6 semaines, je travaillais 7 jours sur 7. À la Noël, j'ai commencé le jeudi soir et j'ai terminé le dimanche soir. En prenant une douche, bien sûr, un peu mal. Hein. Et on m'a proposé de la cocaïne, chose que je n'avais jamais prise avant, et j'ai pris de la cocaïne. Et de là, frères et sœurs, c'est pourquoi vous dire, c'est que de là, ce que j'avais vécu les 5 premières années, de 80 à 86, ce n'était rien à comparer à ce que j'avais vécu après. Et vous savez ce qui s'est passé en fait. Et c'est là que je vais arriver au premier, le cadeau numéro 1. Que Christ... La Bible, elle dit que c'est un verset dans Matthieu 12 qui dit que quand un esprit impur, je lis le texte, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça, c'était mon cœur. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Plus méchant que lui, d'accord ? Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà ce que le texte dit. Et moi, quand j'ai réouvert les portes, ce n'est pas 7 plus mauvais que le premier, c'est 20. Au point, frères et sœurs, qu'à un moment, je me suis retrouvé dans la rue en train de faire les poubelles. D'un salaire de 300 000 francs belges, 7 500 euros que je gagnais par mois, j'ai fermé avec faillite. Je faisais les poubelles. Et s'il y a des gens de métier dans le médical, j'allais récupérer des seringues usagées de toxicomanes. Vous savez, normalement, on doit se piquer une seule fois avec une seringue, n'est-ce pas? Moi, je me piquais 15, 20 fois avec une seringue, la même. Sans la désinfecter, si ce n'est avec un peu d'eau. Rien d'autre que ça. Par moments, tu es tellement défoncé que ta seringue, elle tombe, et elle tombe comment? Sur la pointe. Et ta pointe, elle se casse. L'affûtage, il casse. Et pour réaffûter la pointe de ma seringue, je prenais des boîtes d'allumettes. Vous voyez un peu le truc? Vous voyez un peu? Et quand on ne voulait plus se piquer avec, pour être sûr qu'un autre ne le prenne pas, on prenait le capuchon rouge, on retournait la pointe, et on replantait le capuchon, et la pointe, elle formait un genre de W, là, tu vois? Et j'allais redresser ça. Et souvent, à la sortie de la pointe, ça, il y avait une petite fente, et quand tu t'injectais le produit, le produit se répandait dans ton bras, et t'attrapais des plaques, ton bras brûlait, juste pour vous dire. Et vous savez ce qui me tenait là-bas, en fait? Je vais vous le dire, frères et sœurs, ce qui me tenait là-bas, vous savez ce que c'est? C'est que dans mon cœur, j'étais convaincu, persuadé, que Dieu ne me pardonnerait plus. J'ai été convaincu. Vous savez pourquoi? Parce que dans les 59 que j'ai amenés au Seigneur, entre guillemets, par cette femme, c'est, je n'ai pas de mérite, ceux que j'ai témoigné, eh bien, ils étaient tous retournés dans la rue. Quand j'ai quitté l'église, ils m'ont suivi. Et ça, je le portais sur mon cœur. Il y en avait qui se faisaient des overdoses. Il y en a qui se sont fait égorger. Il y en a qui courent une balle en plein crâne. Il y en a qui se sont suicidés. Et moi, je portais cette culpabilité dans mon cœur. Je ne voulais même plus regarder la Bible, même plus regarder voilà, vers quoi que ce soit. Et vous savez, la Bible, elle dit que quand Dieu commence une œuvre, il la termine toujours. Dieu ne m'a jamais abandonné, je le sais. Il ne m'a jamais lâché, il ne m'a jamais laissé. Un jour, je suis allé pour voler un petit appareil dans un endroit pour mettre un peu de drogue tellement j'étais en manque. Et quand je suis rentré dans cet endroit-là, juste à côté de l'instrument, à un grand magasin d'outillage, à cet endroit-là, il y avait un petit papier, un feuillet là. Et le verset, c'était quoi? Tu ne voleras pas. Il ne m'a jamais laissé. Je revenais un jour à pied chez moi et je vois 3 sapins. Et quand je vois les 3 sapins, je fais « Ah, la Trinité !» Je n'osais pas regarder. Et quand je suis passé près des 3 sapins, il y avait un 4e derrière. Je fais « Ah, le diable, il est là !» Et voyez un peu, j'étais en train de perdre la boule. Derrière chez moi, il y a un gros terri. Il y avait un arbre qui était plus haut que les autres. Et je voyais l'arbre. Vous savez comment? Comme Dieu qui me tendait les bras. Pour vous, c'est de la folie. Mais pour moi, dans mon cœur, c'était des petits messages. Et dans mon cœur, j'étais convaincu que Dieu ne me pardonnait pas. Et un jour, je suis parti au magasin voler une bouteille pour voler. Et cette femme a réapparu, comme si elle sortait du sol. Elle ne m'avait jamais abandonné. Elle a prié, elles ont intercédé pendant 7 ans. Tout le monde tombait comme des mouches. Le seul qui marchait, copain, j'étais le seul. J'avais une maladie de la peau, des croûtes. Vous savez quand Job dit qu'il se grattait avec des sauts de bouteille? Je l'ai fait. Avec des lames de couteau, je grattais ma peau. C'est pas de la blague. Un clochard, plus de santé, plus de famille, plus rien. À un moment, je dis, je vais m'en sortir. Je me suis fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et moi, j'ai fait une cure de désintox, 2 cures de désintox. J'en ai fait une 3e au Chêne-Noué à tourner. C'est pas au Chêne-Noué, c'est aux Fougères. Et quand j'étais là-bas pour faire cours, c'est ça que le temps, voilà. Mon papa est venu me voir. J'étais là depuis presque 12 jours. Je n'ai pas dormi pendant 12 nuits. C'est pas de la blague. Et mon père est venu et ma mère avait amené des chicons, des endives. Et j'ai pris une endive, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais quand je l'ai mangée, je me suis rendu compte qu'elle était passée dans ma blouse, dans mon t-shirt, et qu'elle était sortie sur mon pyjama. Et quand j'ai vu l'endive là, j'ai fait... Et mon père a dit à ma mère, c'est fini, tu l'as perdue. Et quand j'ai entendu ça, le temps que tout se mette en place, hein, il est sorti de ma chambre, il est parti sur le parking, il a pris sa Mercedes, et il est passé devant la fenêtre de ma chambre. Et quand j'ai vu la Mercedes, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aie pitié. Si tu me fais sortir de là, je vais dans ta maison. Et quelques temps après, j'ai rencontré cette femme, dans un magasin. Elle me dit, Franck, comment tu vas? Je fais, ça va. Et toi, Josette, viens à la maison. Viens prendre une douche. Viens manger. Je fais, tu ne me parles pas de Dieu. Tu m'as compris? Tu me laisses tranquille avec Dieu. Je te promets. Je dis, ok. Je prends une douche. Elle me fait à manger. Ce matin, elle me dit, je peux rendre grâce pour le repas. Je fais, ouais. Je rends grâce. Et là, elle est partie. Elle a commencé à intercéder et tout. Je fais, c'est pas de la blague. J'ai retourné le tas. J'ai retourné la table. Je t'avais dit dans une colère bleue. Je t'avais dit. Et quand je suis parti de là, vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs? Des versets ont commencé à revenir dans mon cœur. La parole de Dieu. Et le premier cadeau, c'est ça. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Tu ne l'ennuies jamais. Quand tu vas le voir pour quelque chose qui te pèse sur ton cœur, quand tu vas le voir pour quelque chose que tu as fait, il y a des frères et des sœurs qui sont en souffrance depuis des années parce qu'ils ne se pardonnent même pas un truc qu'ils ont fait. Ils savent que Dieu pardonne, mais ils ne se pardonnent pas. Ça les taraude à l'intérieur. Et ce texte-là, regardez, je vais lire un texte, Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » 1 Jean 1,9. Que vous devrez connaître par cœur. On essaye, non? 1 Jean 1,9 nous dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le mot confesser vient d'un mot grec homologueo, d'où le mot français homologué. On homologue quelque chose, on est d'accord avec. Donc ce mot-là ne dit pas si tu te frappes avec des bâtons, si tu fais un chemin de croix sur tes genoux avec des clous. Il ne dit pas si tu pleures, non. Si simplement tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas en accord avec Dieu, si tu le reconnais, homologué, ou si tu es d'accord avec lui, il te pardonne. Un autre verset, et c'est ce verset-là, dans la Louis II 1910, lui, il prend cette phrase-là. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, ça veut dire quoi? Que vous n'allez jamais l'ennuyer. Et si le diable vous rappelle votre passé, c'est qu'il n'a rien à vous accuser dans le présent. Et moi, ça, cette culpabilité en moi tellement forte, à un moment, elle m'a dit, viens à l'église, viens à l'église. Non, 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 il y a un jour, j'avais eu plein de drogue, j'avais 9 grammes. Et je m'étais défoncé toute la nuit. Je dis, bon, allez, je vais faire plaisir à Georgette et je vais aller avec elle au culte. Et quand je suis allé au culte pour faire cours, il y avait un pasteur avec une barque qui tenait un centre chrétien. Et je suis allé au centre chrétien chez lui. Vous savez, quand Dieu fait les choses, ça peut aller très vite. Et je suis allé chez lui, j'ai atterri chez lui le 21 janvier. Le 21 janvier 1993. Le samedi. 23 janvier. Et je suis arrivé chez lui à 8h au matin, bien sûr, comme je vous dis, j'étais bon, bref. Et il m'a dit, bon, ici, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de méthadone, il y a toi, Dieu et la Bible. Et je fais, et quand je serai en manque? Il me dit, t'es en manque maintenant? Et je fais, non, pas Carly le cuisineur. Et le manque a commencé, si vous connaissez, je ne sais pas si vous avez des membres de famille, voilà. Le manque a commencé à venir très vite, hein, au bout de 2 ou 3 heures, qu'on a pris une dose, on commence à être mal. Tu commences à avoir mal partout, tes os, tes cheveux te font mal, t'attrapes la chair de poule. Vous savez, vous pourriez tuer votre mère. Si vous deviez prendre son cœur pour le donner pour un... C'est pas de la blague, je n'exagère pas du tout. Je n'exagère pas du tout. Je pourrais vous raconter des choses que j'ai faites à cause de cette saloperie-là. C'est terrible. Et à 15 ans, c'est pas ce que je voulais. Ouais, frères et sœurs. Et à un moment, après-midi, j'en pouvais plus, je tremblais, j'étais mal et tout. Et le pasteur me dit, on va aller à l'église. Et j'y allais où l'église? Au centre-ville. Il me dit, oh, quand j'arrive là, je me casse, c'est fini, ça ne marchera pas. Il me dit, va prendre une douche, on va. Je vais prendre une douche. J'avais mis une chemise en jeans et je voulais montrer mon torse musclé, là, ouais. Et quand t'es arrivé, ferme ta chemise. Et vous savez ce qu'il a fait, le monsieur? Il s'est garé. Le premier pas que tu faisais, c'était à l'entrée de l'église. Plus proche que ça, il griffait sa voiture. J'ai ouvert la porte, j'étais dans l'église. C'est pas de la blague. Et je suis rentré dedans et dans mon cœur, il y avait une petite voix qui me disait que c'était ma chance. Comme quelque chose qui me parlait à l'intérieur. On ne sait pas expliquer ça. Je savais. Je me suis mis au fond de la salle, 200 personnes, tout au bout là-bas, tout seul. Il n'a pas de chair élevée comme ça. Le gars était en bas. C'était le pasteur Leblon, François. Bref, Leblon, un homme de 70 et des ans. Il venait du sud de la France, du côté de Nice. C'était la première fois que cet homme était là. Il n'y avait jamais mis les pieds. C'était la première campagne d'évangélisation qu'il faisait à cet endroit-là. Moi, c'était la première fois que j'y étais. Il prêche l'évangile. Tout ce qu'il dit sur l'évangile m'accuse dans mon cœur. Christ, la mort, la croix, disciples, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'il disait m'accusait. À un moment, il dit, si quelqu'un veut faire la paix avec Dieu, je vais l'inviter à lever la main. Je me suis entassé sur ma chaise. Je me suis entassé parce que j'étais convaincu que Dieu ne me pardonnerait pas. Et à un moment, il a dit, dans la salle, il y a un toxicomane. Dieu veut le libérer. Et à ce moment-là, frères et sœurs, je savais dans mon cœur que c'était pour moi. Ma prière de 2 ans auparavant à l'asile, là, chez les fous, elle avait sa réponse. Je me suis levé, je me suis occupé de personne, de personne. Je me suis mis là devant lui, il a prié 5 secondes pour moi. Et à la fin, quand il terminait ses prières, il faisait « Au nom de Jésus !» Personne n'avait peur. Oh, dommage. D'habitude, ça marche. Il criait comme ça. Il venait, il priait, il disait « Seigneur, je te prie, pauvre Franck, guéris-le au nom de Jésus !» Il criait comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, frères et sœurs, quand j'étais sur la chaise là-bas, je tremblais, j'avais des convulsions, ça j'étais pas bien, mon nez coulait, mes yeux coulaient, j'en pouvais plus, j'aspirais qu'à une chose à partir. Quand il a prié pour moi, je suis retourné m'asseoir, j'avais plus de manque. Je suis retourné au centre, ça faisait 2 ans que je ne dormais plus, je dormais 4-5 heures toutes les 4-5 nuits, je déchirais les draps avec mes pieds, j'ai tout détruit avec mes poings dans une chambre de fou. Le pasteur est venu me réveiller, il était plus de 10 heures au matin. Et quand je me suis réveillé, je savais qu'il s'était passé quelque chose, je savais que la rose allait redevenir belle. Le pasteur est venu avec une Bible, j'ai dit, tu me laisses tranquille avec ta Bible, tu m'as compris. Je dois retrouver mon chemin. Et j'ai commencé à la lire. Et à la lire en 3 mois, je l'ai lu 5 fois. Que le nouveau, hein, 5 fois. Et à un moment, j'étais sur mon lit, je ne priais pas, j'étais sur mon lit. Vous savez, par moments, l'Esprit de Dieu vient sur vous. Vous ne savez pas expliquer ça. Il vient sur vous. Et j'ai commencé à voir toutes les méchantes choses que j'ai faites. Et sans me rendre compte réellement, je me suis mis à genoux devant mon radiateur et j'ai commencé à voir des choses horribles que j'ai faites, horribles. Et j'ai commencé, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et je tapais ma tête sur le radiateur. Pas pour m'ouvrir le crâne, hein, parce que je ne savais même pas. C'est le pasteur qui a entendu du bruit, qui est monté au 3e étage. Et quand il a vu ça, il a fait, Alléluia, il est parti. Et vous savez, je compare ça à quoi? Une baignoire d'eau très sale, vous savez, une baignoire toute sale, là, qu'on n'ose pas mettre un doigt dedans. Quand vous tirez le bouchon et que tout se vide et que vous rincez après, c'est magnifique. C'est comme mon cœur a fonctionné à ce moment-là. Christ m'a pardonné, c'est pour ça que je dis que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Quoi que l'on puisse faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais malheureusement, on est sur terre, on est humain, on a des faiblesses, on a des côtés sombres de nos vies avec lesquelles c'est l'apôtre Paul qui dit « Je ne fais pas ce que je voudrais, je fais ce que je ne veux pas. » Il y a une lutte, ce n'est plus moi qui le fais. Vous voyez un peu, je vais pas donner d'exemple. Voilà. Mais je sais que dans nos vies, il y a des choses qui nous culpabilisent, des choses avec lesquelles on lutte, des petites choses que l'on fait en secret, des choses que l'on ne devrait pas faire, des choses avec lesquelles Dieu nous a demandé de nous mettre en règle. Et nous, dans notre cœur, on culpabilise, on n'est pas bien, on a l'impression par moments que ce qu'on a fait est trop grave. Mais non, c'est faux. Dieu ne se lasse pas de pardonner si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste. Et si on va et lui dit, Seigneur, pardonne-moi, il va le faire. Et vous savez ce qui se passe après? La feuille redevient blanche, l'ardoise est blanche. Si les hommes vous accusent, qui condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? Vous voyez un peu? Et donc, c'est le premier cadeau que je veux vous dire ce matin. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas. Vous ne l'ennuierez jamais. Et je reviens encore une fois là-dessus. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui ont une culpabilité dans leur cœur parce qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans, 17 ans, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ils se savent pardonner, mais leur cœur les condamne terriblement encore aujourd'hui. Ils disent à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as pardonné, mais je me sens tellement coupable dans mon cœur. 1 Jean 3:20 nous dit, frères et sœurs, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Le deuxième cadeau que je voudrais vous donner, hein, rapidement, je ne sais pas l'heure qu'il est, je vous ai dit, hein, j'ai déjà vu un frère regarder sa montre. Je ne vais pas le regarder maintenant parce qu'il risque de sortir mal à l'aise. Mais... Voilà. Vous voyez ? La deuxième chose, est-ce que vous pensez que l'amour de Christ varie selon la saison ? En hiver, il nous aime un peu moins, au printemps, il nous aime un peu plus, en été, il nous aime comme un fou. Dites-moi. Est-ce que vous pensez que l'amour de Christ varie? Non. Est-ce que sa compassion à notre égard, elle varie? En celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Si je vous dis, Hébreux 13,8 nous dit que Dieu, hein, Dieu, Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13,8, prenez vos Bibles, hein, si vous voulez. Il dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'il faisait hier, quand on lit les évangiles? Qu'est-ce qu'il faisait? Dites-moi. Il faisait quoi? Il libérait les captifs? Il faisait ça ou pas? Est-ce qu'il est le même Jésus aujourd'hui? Il guérit les malades, est-ce qu'il le fait encore? Ça devient compliqué dans l'église de parler de guérison. Hein. C'est chaud, hein? Trop de chrétiens, vous savez, il y a beaucoup trop de chrétiens qui interprètent la Bible par leur expérience. Moi, ce n'est pas ce que je vis qui détermine ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit qui détermine ce que moi je vis. Vous comprenez la différence? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais faire court rapidement. Un gars qui se drogue pendant 12 années, qui s'injecte des produits terribles. Si je pourrais vous donner des détails, vous montrer des images, vous serez horrifié. À un moment, le pasteur du sang me dit, on va faire une prise de sang, on va voir si tu n'as pas attrapé le sida. C'était le moment, ce que ça. Et vous savez, les junkies, ils se passent les seringues. Hein. Et je dis, ok. Le gars me fait une prise de sang. C'était un docteur, un catholique, et je vais dire un catholique pratiquant, parce qu'il y a beaucoup dans ma famille, ils disent je suis catholique, mais je ne pratique pas. Là, c'est vraiment un frère, un monsieur qui allait à l'église, qui aimait Jésus. Et il me fait une prise de sang, et il revient deux semaines après, il me dit, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise. Donc moi, le premier, hein, si tu veux, il me dit, la bonne nouvelle, tu n'as pas le sida. Je fais, oh, merci Seigneur. La deuxième, c'est que tu as attrapé un truc à ton foie. Il te reste 5-6 mois. Il y avait une femme dans ma rue. Son foie était tellement atteint par l'alcool. On lui avait donné 3 mois. Elle a fait 2 mois et demi. Son foie a pété. Et moi, le gars, il me disait qu'il me restait 6 mois. Et à ce moment-là, Jacques, chapitre 5, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit, frères et sœurs? Il faut lire votre Bible. Hein? Non, mais sérieusement, il faut lire sa Bible. C'est notre socle. Il dit, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens l'oignon d'huile, et la prière de la foi guérira le malade, et s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Quand il m'a dit cela, ce verset m'est revenu dans la tête. Ma foi ne s'est pas basée sur ce qu'il m'a dit, sur ce que je pensais de moi, mais sur ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Et je me suis accroché, j'ai dit, oui, mais vous savez, docteur, la parole de Dieu dit cela. Et il m'a regardé, il a fait... Il m'a regardé comme ça, avec un peu de... Voilà. Bref, on s'en va en France, je vais faire court, c'est terrible. Hein. On va en France dans un séminaire d'une semaine pour Teen Challenge, et là-bas, il y a la prière pour les malades. Et donc, on dit, voilà, si quelqu'un est malade et tout, et le pasteur, il me donne un coup de coude, il me fait, t'as un pou de foi. En français, va pour ton foie. T'as un pou de foi. Je reste tranquille, je vais lui demander qu'on prie pour mon dos. Parce que je vais me faire opérer, on devait me rallonger, mettre des vis, des tiges dans mon dos. Sérieux, j'ai toute une armature en fer en bas. Et je vais là-bas, je dis, voilà, les frères, je voudrais qu'on prie pour mon dos parce que je dois me faire opérer, je ne veux pas me faire opérer. Et c'était des portes que tissent, mais la folie, hein, la folie. Ils ont commencé à tendre les bras. Je dis, ouais, je ne vois pas ce que ça va faire, mais je tends les bras. Et là, ils commencent à prier. Et puis, il y a des gars, vous savez, il y a certains portes que tissent qui prient en langue, hein, vous savez. Et je n'ai rien contre ça, hein, voilà. Mais ils ont commencé à prier après 10 minutes, 12 minutes, j'en pouvais plus. C'était une torture. J'avais mes jambes qui s'endormaient, mon dos qui pesait mal, mes bras, ils pesaient 100 kilos. Et à un moment, j'ai dit, s'il vous plaît, je vais aller me rasseoir. Et on m'a regardé comme ça, et je suis parti me rasseoir. Et quand je me suis assis, le pasteur me dit alors, il me dit, une foi est guérie. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as des poules de dos. Je dis, je sais, mais une foi est guérie. Et je crie, il me fait, tais-toi. Et quand on est rentré en Belgique, même aux plus grands incrédules, si vous montreriez les preuves des feuilles du médecin, il ne croirait pas. Il dirait que c'est des faux papiers ou qu'ils se sont trompés de personne. Il est revenu, je fais, docteur, vous allez me faire une prise de sang. Il me fait une prise de sang. C'était passé de 2000 et des machins, GTB, GTO, là, vous savez, c'est tout les marqueurs, là, vous savez, GTA, je ne sais pas, il y a des GTI, il y a tout ce qu'il faut. C'était repassé à 172. Et le médecin, il m'a regardé, il me dit, tu sais, voilà, écoute, on va refaire une prise de sang. Il m'a fait une prise de sang. Et vous savez où ce qu'il l'a envoyé? À Anvers. Au truc des maladies tropicales. Ils sont très spécialisés là-bas. Et quand il est revenu avec la deuxième, donc la troisième en tout, la deuxième prise de sang, il a dû reconnaître. Il m'a dit, écoute, je ne comprends pas. Il semble que ton foie est guéri. Et c'est ce que la Bible dit, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La maladie de la peau, frères et sœurs. Hein? Je sais que la maladie de la peau, je ne l'ai plus. J'avais 5 ulcères, j'avais des trous partout, je pissais le sang à l'intérieur, ça allait exploser. Vous savez, et je n'ai plus. Et la maladie de la peau, je me rappelle que j'étais guéri du foie, j'allais à l'église, j'étais engagé à l'église et tout ça. Et quand je m'étais en torse nu pour me raser, j'avais encore toutes ces croûtes purulentes que je grattais, c'est pas de la blague. Et j'ai dit à Dieu devant ma glace, Seigneur, j'aurais tellement aimé pourrir de l'intérieur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne me guéris pas de mon corps comme ça? Je disais, c'est tellement infect que je dis. Et après, vous pensez à la vie future. Et un jour, je prends une douche, je me lave et tout. Et tout d'un coup, je m'essuie. Et quand je m'essuie, qu'est-ce que je vois? Pourquoi, frère, je vous dis ça? Pas parce que je suis meilleur, bien au contraire. C'est tellement que j'étais loin que Dieu a dû taper très fort très très fort pour que je sache qu'il m'avait pardonné, pour que je sache qu'il pouvait me restaurer. Et ce Dieu-là dont je vous parle, c'est le même. J'en ai pas un autre. C'est le même Christ, c'est le même Jésus. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Et je vais arrêter là avec ce point-là parce que j'en ai encore un troisième. Arrête de regarder ta montre. Hein. Attention. Maintenant, je te balance. Hein. C'est comme ça. Là, et un verre d'eau même, si je fais attention à toi. J'avais des affaires de justice. J'étais accusé de vol avec violence, de vol à main armée. Je n'avais pas fait. J'avais des tribunaux, j'avais plein de choses. Vous savez ce qui m'est venu dans mon cœur? Il n'y a plus aucune pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Et quand j'ai lu ça, vous allez me dire, mais il était naïf. Ouais, peut-être qu'il me manque un bout de cerveau, mais ça marche. Hein. Je suis allé devant le tribunal. Je me suis tellement fait remarquer dans le tribunal. J'ai pété un câble, j'ai disputé, la police elle est venue. Oh, oui, je sais. Que la procureure, je l'ai reprise, pas gentil, que dans le journal, le lundi dans le journal, lundi d'après, il y avait une demi-page. L'accusé dit à la procureure, avons-nous déjà été au restaurant ensemble? Et mon père m'a appelé, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Bref, acquitté, gracié. Mon épouse, on est ensemble, on est mariés. Il y a des choses du passé qui sont venues, frères et sœurs. Notre Dieu est le même hier. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas remboursé mes dettes. Hein. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Quand je suis devenu chrétien, j'ai été remboursé ceux qui savaient que j'avais volé. Pas tous ceux qui ne savaient pas, t'imagines? Je serais à la rue là maintenant. Mais j'ai remboursé tous ceux que j'ai volés. Et pas comme Zachée, mais à moitié. J'ai remboursé avec intérêt. J'ai remboursé, cela fait des témoignages, des gens sont venus au salut avec ça, frères et sœurs. J'ai remboursé les gens que j'avais volés, j'ai de les voir, vous voyez. Et donc ici, dans tout ce que j'ai pu faire, dans les tribunaux, il y a un monsieur que je me suis battu avec lui, ça a été très grave. J'ai payé les dommages physiques et tout. Vous voyez, c'est pas que je suis en train de dire qu'avec Dieu, il y a plus rien, que tout est beau, on est sur un surf. Non, mais il y a un grand pan de notre vie que malheureusement, on le met de côté. Dieu ne demande qu'une chose. La Bible dit que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. À combien d'avantages il donnera par-dessus? Mais est-ce que vous pensez que mon fils se pose la question si je vais lui donner à manger? Dites-moi. Non! Si un chien veut l'attaquer, vous pensez que mon fils va se demander si je vais le défendre? Si je dois donner mon rein ou mon sang ou ma vie pour mon fils, vous pensez qu'il va se poser la question? Est-ce que papa va le faire? Non! S'il est sur un arbre et qu'il doit sauter, il ne va pas se poser la question si je vais me casser le cou ou un bras. Il va se jeter. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en moi. Et c'est comme ça qu'on doit faire avec Dieu. On doit avoir confiance en lui. On doit être comme des petits-enfants. On doit le croire. On doit prendre sa parole à la lettre. Et par moments, le chemin est un peu plus difficile. Est-ce que Dieu guérit tout? Non. Dieu ne guérit pas tout. Mais Dieu peut tout guérir. C'est la différence. Mais il peut encore le faire. Vous voyez, frères et sœurs, il peut encore le faire. Et le dernier point, j'arrête là. Dieu a un plan pour chacun de nous. Vous savez, quand vous avez fait la vie que j'ai faite, 15 ans, vous travaillez, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez plus de santé, vous n'avez plus rien, vous avez des vis dans le dos, vous avez une prothèse au niveau de la jambe, des barres, des tiges, l'épaule, vous n'avez plus rien, pas de diplôme et tout, l'avenir est plus reluisant. Quand vous n'avez pas d'argent, vous avez des dettes, que vous n'avez rien à vous, vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien, pas de diplôme, rien du tout. Vous dites, mais de quoi sera fait mon futur? Et Jérémie 29, 11, que vous connaissez tous encore une fois par cœur, je sais, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir fait d'espérance. » Et quand vous lisez le texte hébreu, car je connais les pensées que j'ai formées sur vous, en fait c'est car je connais les pensées que je pense et que je pense. C'est un temps en hébreu qui nous parle d'une pensée obsessionnelle presque. Dieu est obsédé par les choses qu'il a pour toi. Il a donné. Il a des choses pour toi, pour ta propre vie. Et donc quand moi je vais donner ma vie, il est clair que j'avais pas d'avenir devant moi. J'avais rien, si ce n'est les tribunaux, la prison et tout. Et tout ce que vous voulez. Mais quand j'ai confié ma vie à Dieu, je me rappelle, c'était le 18 août 1993. Les 8 premiers mois de ma conversion ont été clopin-clopin. J'ai repris 2 fois de la drogue, j'ai bu 1 fois de l'alcool. Oui, ça a été un chemin. Vous savez, comme quand on gravit, il y a une montagne, on monte, puis il y a une petite vallée qui descend pour remonter plus haut. Vous voyez, ça, mais je n'ai pas lâché le bazar, parce que je savais que si je lâchais le bazar à ce moment-là, j'allais perdre pour de bon. Et je me suis accroché à lui. Et le 18 août 1993, 1993, à 3h au matin, hein, je n'ai plus le temps. Il s'est passé un miracle dans ma chambre. Et je vous dis un miracle. Et j'en parlais avec mon épouse. Est-ce que je dois me taire? Est-ce que je ne dois pas le dire? Moi, il y a des frères et des sœurs, ils sont tellement incrédules qu'ils viennent vous combattre. Ils vous disent, arrête, tu dis n'importe quoi. Mais non! Si je me tais, les chaises vont parler à ma place. Ce Christ de qui on parle, il n'a pas changé. Et s'il dit qu'il y a des plans faits de bonheur, tu n'as jamais été trop loin. Tu ne vas jamais trop loin. Tu n'as pas tout foutu en l'air. La réputation de Dieu ne vient pas du nombre de chrétiens qui tapent dans le dos. La réputation de Dieu vient du nombre de vies qu'il reconstruit, de personnes qu'il restaure, de familles et de couples qu'il rafistole. C'est de là qu'il tient sa réputation. Dieu a choisi les choses faibles, les choses folles, les choses viles, celles qui ne comptent pas, pour confondre les fortes. Ça, c'est notre Dieu, il n'a pas changé. Et à la Noël, c'est ce qu'il a fait. Il est venu défier le royaume des ténèbres. Dieu est venu mettre un pied sur terre. Et il a gagné la victoire sur cette croix. Ô mort, où est ta victoire? Elle me fait plus peur, moi. Je ne suis pas pressé d'y aller. Voyez un peu. Et donc, frères et sœurs, pour faire court, hein, les tribunaux, je n'ai pas été en prison. Moi, je n'ai plus été. J'ai un casier vierge. Le Seigneur m'a permis de reprendre des études. Je ne veux pas faire la gloriole, mais le Seigneur m'a permis de refaire des études. J'ai pu aller à l'université faire un bachelier sans jamais penser faire un master, attaquer un deuxième master. Je ne parlais pas l'anglais avant. Et à partir de la quatrième année, tu devais faire tous tes cours en anglais. Et ton master, tu devais le faire en anglais. Et pendant que je faisais l'anglais, j'apprenais le portugais. Et pendant que j'apprenais le portugais, je devais étudier le français parce que je ne savais plus ma structure de grammaire pour bien étudier l'anglais, parce que l'anglais allait m'aider à étudier l'hébreu et à étudier le grec. Un gars qui a passé 12 ans, 24 heures sur 24, défoncé avec de la drogue dure dans son crâne. Dieu va le prendre. Il va souffler sur lui. Et vous savez comment je termine mes études à la fin ? Avec grande, super grande distinction, avec un chiffre 3 au-dessus, au cube et au carré, tout ce que tu veux. J'avais plus de 90%. Et je dis ça pourquoi ? Pas pour me faire une gloriole, non, frères et sœurs. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Parce que Dieu a pris un moins que rien, un clochard dans la rue, une personne que sa propre famille avait rejetée. Mon père m'avait banni de chez lui, c'était terminé. Plus personne n'avait aucun regard sur moi. Et à ce moment-là, il s'est glorifié. Il s'est pris, il a dit, moi je veux que tu vives. Vous voyez ? Votre situation, elle est pire que la mienne ? J'espère pas. Mais quand on est dans ces trous-là, on n'a plus d'autre cours que lui. Le frère disait, on est tellement bien mis. On a mal ses dents, qu'est-ce qu'on fait en premier? Honnêtement, on prie, arrête. On a mal ses dents, on prend quoi? Un Aspro 500. C'est pas vrai? Si on a comme mal ses dents, qu'est-ce qu'on fait? Un deuxième Aspro 500. Et si ça va pas, on va chez qui? Au dentiste. Et merci Seigneur pour les dentistes. C'est un miracle en soi. Et si à la fin, on a vraiment qu'on n'en peut plus, que bon, ça fait des mois qu'on dort, qu'il y a un trou dans le mâchoire et tout, on va peut-être demander à Dieu. Hein? C'est juste ou pas? Quand on a faim, on ouvre le frigo, bon, on est envahi. Oh, ça j'aime pas, il n'y a rien à manger ici. Hein? Il y a trois camemberts et du jambon et du foie gras, il n'y a rien à manger. Vous voyez? Et donc, sans se rendre compte, on est tellement dans une abondance, comme on dit en anglais, overflow, ça nous entasse en dessous, que qu'est-ce que Dieu peut nous amener à part le pardon de nos péchés? Et pourtant, c'est la base de notre relation à Dieu. Quand je parle du pardon des péchés, quand je parle d'une relation avec Dieu, je ne parle pas du fait... Moi, je suis né dans une famille catholique, pratiquante. Mon papa italien voulait que je fasse ma communion. J'ai fait ma communion. Et quand je suis allé faire ma communion, je savais ce que je faisais. Vous voyez un peu. Donc, j'avais toujours ça. À l'âge de 10 ans, je faisais mes 5 Notre Père et mes 5 Je vous salue Marie. À 10 ans, à genoux. Et je sais que Dieu m'écoutait. Parce qu'il voyait mon cœur d'enfant, donc depuis ma plus tendre enfance. Mais à un moment, il doit se passer quelque chose. Parce que quand, et je conclue avec ça, quand on rencontre Jésus, on doit le savoir, on le sait. Moi, je sais quand j'ai rencontré ma femme. Je sais que c'était dans un marché de Noël. Je sais la première pensée qui est venue dans ma tête quand je l'ai regardée. Je sais que pour apprendre à l'aimer, on a dû faire un chemin ensemble. Mais je sais que le 9 juillet, je l'ai épousée. Je sais, je connais la date, n'est-ce pas? Je connais la date de ma naissance, c'est le 4 juillet 1965. Je sais quand j'aurai payé mon prêt hypothécaire, je connais la dernière traite. Je connais quand mes enfants sont nés. Je sais quand ma fille est née. Je sais le jour où je suis né de nouveau. Je connais la date et je connais l'heure. Et je ne vous demande pas la date et l'heure, mais dans votre vie, vous devez avoir un point, un repère, un endroit ou un moment où vous avez été convaincu de vos péchés. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance passe par une conviction que le Saint-Esprit fait. Homologeo, confesser, peut se faire sans conviction de l'Esprit. Un chrétien mature n'a plus vraiment besoin, entre guillemets, que l'Esprit le visite pour le convaincre de péché, parce qu'il le sait. Quand tu roules à 120 au lieu de 50, tu sais que tu n'es pas droit. C'est juste, tu n'as pas besoin que le flic il siffle, n'est-ce pas? Tu le sais. Et avec Dieu, c'est la même chose. Par contre, il y a des péchés cachés, enfouis, que l'Esprit de Dieu doit venir animé. Mais quand une personne naît de nouveau, quand c'est la première fois, quand l'Esprit de Dieu se présente à son cœur, à ce moment-là, il doit y avoir une action de l'Esprit telle dans son cœur que s'il ne confesse pas, s'il ne se repent pas, il sait qu'il va exploser. Et vous devez... Moi, j'ai une jeune fille qui m'a dit, moi, monsieur, c'était dans un concert, c'était un jour de printemps, j'étais devant un petit lac. La petite, elle le sait. Un autre m'a dit, 12 ans, il m'a dit, moi c'était dans ma chambre, dans un camp de Genval, le fils d'André. C'est à 12 ans, dans ma chambre, où j'ai donné mon cœur à Dieu. Je ne vous dis pas d'être précis comme moi et de dire que c'est le 18 août. Dieu m'a touché le 23 janvier, c'est le 18 août, 7 mois après. Mais il faut savoir, à un moment, il doit y avoir un point de repère dans notre vie. J'ai envie de dire, Christ n'est pas une religion, c'est une relation. Le voile a été déchiré. Quand Christ est mort, la restauration, ce qui a été perdu au jardin d'Éden a été rendu en Christ, frères et sœurs. Et si vous voulez vivre cette vie abondante, si vous voulez profiter au maximum de tous ces cadeaux que je vous propose hein, ce matin, que Dieu ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas, qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Ce qu'il a fait là-bas, il peut le faire ici aujourd'hui, il pourra le faire demain. Et si on pense qu'il n'a plus d'avenir, que c'est trop loin, qu'on a tout gâché, que c'est foutu pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre couple ou pour autre chose, la parole de Dieu nous dit le contraire. Vous allez croire quoi? Vos circonstances et le diable qui chicane à vos oreilles? Ou est-ce que vous allez croire et vous accrocher à ce que la parole de Dieu vous dit? Moi, je vous donne un conseil. Vous n'avez pas le choix. Choisis la vie. Dieu dit même, je place devant toi la vie et là. Et vu qu'il sait que par moments le cerveau ne fonctionne pas bien, il nous conseille. Il dit, choisis la vie. Et ce matin, c'est tout ce que je vous avais à vous dire. Noël est là, oui. Mais moi, ce message de Noël, il ne s'arrête pas à un petit bébé qui est né là dans une crèche. Hein. Le message de Noël, pour moi, c'est les vies que Christ y transforme. C'est ce que Christ fait dans les vies. C'est ce que Jésus peut encore faire dans nos foyers, dans nos familles, dans nos rues, dans notre environnement. Il ne faut pas être gêné. On déchristianise la société à une vitesse de fou. Et nous, on est comme des moutons, on se tait, on baisse la tête. Alors qu'on a le message qui a bouleversé la planète. Aujourd'hui, en Angleterre, on ne dit plus avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. On dit avant notre ère et après notre ère. Voilà où ce qu'on est, frères et sœurs. Et nous, on est là, on vient dimanche, on s'étrangle en chantant 3-4 chants. Si on va taper des mains, on va voir si ça va, quoi. Si elles ne sont pas contre froid. Je suis sarcastique, mais c'est sérieux. Quand on l'a rencontré, qu'il nous a convaincus de péché, et qu'à ce moment-là, on réalise cette grâce-là, en nous, comme la Bible elle dit, il y a un flot, il y a un fleuve d'eau vive. Et même dans les difficultés, j'en ai jusqu'au-dessus de la tête. Des soucis, j'en ai. Souffrir dans mon corps, je souffre encore aujourd'hui. Je me réveille 4-5 fois la nuit parce que j'ai mal à mon dos. Vous comprenez? Je ne suis pas en train d'être un hurlu-berlu. Je ne suis pas un prosperity gospel. Je ne suis pas en train de dire, hein, vous voyez un peu. L'évangile est de la prospérité, mais je vous dis que ce Dieu dont vous chantez, pour qui vous rassemblez là, il n'a pas changé. Il est le même. Il est à la porte de notre cœur, de l'église, de nos maisons. Et ce Noël-ci doit être un Noël spécial. Ce qu'il a fait avec moi, ce qu'il a fait avec d'autres personnes, il peut le faire avec chacun de nous. Quel âge tu as, jeune homme? T'imagines que c'est beau. Tu as toute une vie à donner à Dieu. Toute une vie à donner à Dieu. Il n'y a pas de meilleur employeur. Il n'y a pas de meilleur employeur que lui. Frères et sœurs, faisons l'œuvre de Dieu. Aller vers des personnes comme moi. Imaginez-vous si cette femme n'était pas venue. Je serais où? Dites-moi. Je serais où? Il y a des cimetières remplis de jeunes, là. Plein, plein. On est indifférent. Hier, je suis passé devant un gars qui est mendiant. J'étais indifférent. J'étais indifférent. Et c'est ma femme qui m'a convaincu de pécher presque. Parce qu'elle a fait, elle a eu un élan d'affection et d'amour pour cette personne qui était à la sortie du cinéma. J'ai dit, Seigneur, mon cœur est devenu insensible. Frères et sœurs, je bénis Dieu pour la sœur qui apporte la soupe. Oh Jésus, que c'est beau. Engagez-vous, faites-le. C'est Noël. Un sauveur nous est donné. Amen. On prie ensemble. Vous me permettez de prier pour vous? Ouais. Seigneur, je veux te bénir parce que cette visite n'était pas planifiée de longue date. Et je veux te louer parce que dans ta parole, lorsqu'on regarde le livre des Actes, on ne trouve aucune prédication de l'apôtre Paul. Ce que l'on trouve à trois reprises, c'est son témoignage. La manière dont tu t'as rencontré, ce que tu as fait dans sa vie. Et ce matin, Seigneur Dieu, tu m'as placé dans ton église, dans cette assemblée avec mes frères et mes sœurs, pour montrer ce que tu as fait de moi. Et je n'en tire aucune gloire, Seigneur, parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où tu m'as choisi. Je sais que tu m'as établi. Et je sais que tout un chacun ici a autant de valeur, si pas plus de valeur que moi encore pour toi. C'est pour cela, Seigneur, quand cette période de Noël où nous voulons nous rappeler que tu es venu un jour sur terre, nous voulons nous rappeler que chaque jour, à chaque instant, tu es là, présent à côté de nous. Tu n'attends pas une date précise, tu n'attends pas un culte précis, tu n'attends pas une réunion précise, Seigneur Dieu, mais tu es là tous les jours à nos côtés, tu attends patiemment que l'on t'invoque, que l'on t'appelle, que l'on t'invite, que l'on dépose nos fardeaux. Alors ce matin, Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs, qui dans leur cœur ont des choses qui les culpabilisent depuis tellement longtemps, qui les tirent vers le bas, qui souffrent avec ça, des choses qui n'arrivent pas à se pardonner. Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu puisses maintenant venir les envahir, d'une paix précieuse que toi seul donnes et que l'intelligence ne comprend pas. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, Qu'importe si les gens nous prennent pour des fous, c'est ce que tu as dit. Folie pour ceux qui se perdent, puissance pour celui qui croit. Nous voulons nous abandonner entre tes mains et te demander, Seigneur, fais ce que tu dois faire dans nos vies pour que nous puissions te glorifier davantage, sur tous les niveaux, sur tous les aspects. Peut-être, Seigneur, que certains dans cette assemblée pensent que le futur qu'il est devant eux est terminé, qu'ils ont tout gâché, qu'ils ont, comme on dirait, tout foutu en l'air, qu'ils ont été trop loin, qu'ils n'ont plus aucune chance de remettre les choses en place. Tu nous as rappelé dans ta parole que tu as des plans de paix et de bonheur avec un avenir fait d'espérance. Alors que cette nouvelle puisse fortifier nos cœurs, que ton esprit puisse nous donner la vie, que ta parole puisse être le socle de notre foi. Bénis ton assemblée, bénis ton église, Seigneur, et glorifie-toi au travers d'elle. Amen. Amen.